simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, le retour. Grégor, une part anarchiste communiste, chaque semaine sur l'École des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien sûr des primitives à Reims sous cette émission réalisée. Je crois que on va vous passer deux trucs d'émission, de reprises sur une radio parisienne. Là, l'une de ces émissions est consacrée au décret qui est sorti, je crois, en décembre concernant Pôle
emploi.
Ouais. Concernant Pôle emploi. Et le deuxième, ça sera sur la grève à la Poste dans le 92, qui dure depuis 316 jours aujourd'hui, je crois.
Oui, voilà. Donc, sur la première partie, donc, comment Pôle emploi va traquer de plus en plus les chômeurs. C'est une interview d'un syndicaliste du SNU FSU de Pôle emploi qui explique ce que ça va changer pour eux au niveau de Pôle emploi. Voilà. Allez, on est parti, ça fait une quarantaine de minutes.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine et c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est dick. Je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit, acédique, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, chaque jour soit férié. Un jour je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval. Du RER et du Leclerc, de Bougival. Parasitique, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement sous la barre dans mon lit. Parasitique, enfin ma place au soleil.
Et bien voilà, on reprend parce qu'on n'a pas de trop de temps pour dire combien il est dangereux ce qu'il est en train de se passer concernant l'assurance chômage. Après la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc ça c'était le 5 septembre 2018, il y a pas mal de décrets d'application voilà, qui devaient sortir. Et le premier décret est arrivé, ils sont arrivés le 28 décembre, donc autant dire pendant que tout le monde était, sauf les gilets jaunes, en vacances. Donc parmi une vingtaine de textes se cache le décret, un décret relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi. Donc, voilà, on a demandé à François du SNU, c'est ça ?
Oui, on peut prononcer SNU.
SNU. De venir nous en dire un petit peu plus, de nous informer, parce qu'on a besoin d'être informé pour pouvoir après réagir, se battre, s'organiser. Donc du coup là c'est plutôt une émission pour vous dire ce que contient à la fois ces décrets et puis peut-être aussi la loi, enfin la continuation. Il y a des débats en ce moment, etc., sur l'assurance chômage, vers où ça va et pourquoi c'est important de se mobiliser. Donc déjà, nous, on avait envie de dire que pour baisser autoritairement les chiffres du chômage, quand même, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place, et notamment l'automaticité des sanctions, la progressivité, et puis, on dit la double peine dans ces cas-là, puisque là, maintenant, quand il y aura un manquement, c'est-à-dire un rendez-vous auquel on n'aura pas pu aller en tant que chômeur, il va y avoir immédiatement des radiations. Hein. Alors bon, je le dis vite fait, comme ça après tu me dis, toi, comment vous interprétez ça. Alors une absence, c'est un mois de radiation sans allocation. Autant dire que radiation, ça veut dire après il faut se réinscrire, enfin c'est toute une galère. Deux absences, c'est 2 mois de radiation sans allocation. Et 3 absences, c'est 4 mois de radiation sans allocation. Donc ça, c'est si on y a un manquement, c'est-à-dire si on ne va pas à un rendez-vous. Donc ça, c'est la première des sanctions. On verra après qu'il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres, oui. Effectivement, le décret du 28 décembre, donc, c'est un décret d'application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans cette loi, il y avait déjà donc, le renforcement des contrôles qui étaient évoqués, de même qu'un carnet de bord numérique. Et donc, on voit dans ce décret précisément ce que le gouvernement attend d'un renforcement du contrôle. Alors, à l'origine, avant ce décret, la radiation pour non-présentation à un rendez-vous était de 2 mois.
Mmh.
De 2 mois, et le gouvernement avait donc voulu proposer un échelonnement de ces sanctions et se proposait de commencer l'échelonnement à 15 jours. Alors, ils ont dû trouver leur magnanimité peut-être un peu trop généreuse, et donc ils sont remontés à 1 mois.
Mmh, mmh,
donc, le gouvernement peut proposer l'idée que, grâce à eux, au final, la première sanction est moins élevée que la précédente. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant avec cet échelonnement, c'est qu'il y a comme une judiciarisation de la sanction. Hein, puisque avant, c'était 2 mois. 2 mois avec suspension des allocations. C'est-à-dire que les allocations étaient suspendues, mais elles vous étaient maintenues. Puisque vous étiez radié, vous ne touchez pas vos allocations, mais on ne vous enlevait pas d'allocations sur votre droit total.
Ah d'accord, c'était juste reporté à plus tard.
C'était reporté à plus tard.
Ah, ça n'a rien à voir.
Alors, là maintenant, on baisse la première sanction à 1 mois, mais donc on la rend plus facilement applicable. Hein, plus la sanction est faible et plus elle est facilement mise en œuvre. Donc, on baisse la première sanction à un mois. En cas de non-présence à un rendez-vous, l'allocation est toujours suspendue.
D'accord. Hein,
elle est suspendue. À partir de cette première radiation, là, vous avez une période de 2 ans. Et dans le cadre de la judiciarisation, c'est comme une période probatoire où vous devez pouvoir faire vos preuves. Et à partir de cette première sanction, vous allez donc pouvoir être ensuite radié 2 mois avec suppression des allocations cette fois-ci.
D'accord.
Et 4 mois avec suppression des allocations au 3e manquement. Mais ce décret ne concerne pas que les absences à un rendez-vous. Hein. On traite aussi, dans le cas de ce décret, de l'insuffisance de recherche d'emploi, du refus ou d'une absence à un rendez-vous avec un prestataire ou à une formation, et du refus de 2 offres raisonnables d'emploi, dont on va longuement parler un peu plus tard dans l'émission.
Alors là, c'est quand même...
Ouais, si je peux me permettre, pour ces autres éléments, c'est toujours les mêmes logiques de sanctions. 1 mois de radiation, ensuite 2 mois, ensuite 4 mois. Mais dès le premier mois, il y a suppression. Hein, il y aura suspension avec absence à un rendez-vous, mais pour tous les autres cas, il y aura suppression. Et ça, c'est très nouveau. Donc avant, on suspendait les allocations. Maintenant, on les supprime. Donc là, le système coercitif, déjà, il y a une logique de judiciarisation, mais la coercition est d'autant plus brutale qu'on vous supprime des droits acquis.
Sans compter que quand même, peut-être, là, je ne sais pas si tu as les chiffres, mais il faut quand même rappeler aux auditeurs que la plupart des prestations ne sont pas mirobolantes et que si, du coup, on nous enlève 1 mois de notre chômage, c'est très, très rapidement l'impossibilité pour les chômeurs de payer son loyer, d'acheter à bouffer, etc. On tape directement quand même dans le vital.
Bah, la radiation est d'une violence absolument délirante. Comment justifier pour la non-présentation à un rendez-vous qu'on vous empêche de pouvoir vous nourrir, nourrir votre famille, payer votre loyer? C'est totalement aberrant. D'où l'idée que 2 mois de radiation, c'est une sanction suffisamment grave pour qu'elle soit peu appliquée. Baisser la violence des premières sanctions, c'est libérer la possibilité de sanctionner plus facilement. Et à partir de cette première sanction, la logique infernale de la période probatoire de 2 ans.
De la récidive. On est dans exactement de la judiciarisation. Et là, du coup, quand tu es récidiviste, tu manges, quoi. Mais alors, qui c'est qui détermine le fait qu'on cherche ou pas un emploi ou que... Est-ce que c'est automatique? C'est-à-dire, par exemple, on peut pas venir à un rendez-vous, on n'a pas reçu la lettre. Enfin bon, des fois, il y a des cas complètement... Comment on fait? On s'adresse à qui pour contester?
Alors, bon... Il y a deux moyens de pouvoir identifier la légitimité, on va dire, légale d'une radiation d'un demandeur d'emploi. Déjà, il y a une automaticité de la gestion de la liste. C'est-à-dire que quand vous ne vous présentez pas à un rendez-vous,
paf,
et qu'il n'y a pas de conclusion saisie du rendez-vous, alors automatiquement, un avertissement avant radiation est envoyé au demandeur d'emploi.
D'accord.
Et là, effectivement, c'est l'automaticité qui se met en place. Alors, d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant de se rappeler que dans les années 90, jusqu'en 94, la radiation d'un demandeur d'emploi était une chose compliquée, car il fallait qu'on puisse prouver auprès d'une commission de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la DDTEFP, qui est devenue la DIRECT. Il fallait pouvoir prouver à une commission de la DDTEFP les raisons valables pour lesquelles la NPE demandait la radiation du demandeur d'emploi. Alors, ça a été donc automatisé à partir de 1994, avec en plus la gestion informatique et numérique qui fait que vous avez de toute façon un ordinateur qui s'occupe de ça à votre place. Et chose intéressante, dans ce décret, il y a aussi le transfert de compétences, puisque pour pouvoir valider la pénalité administrative, à savoir la radiation et la suspension des allocations ou la suppression, il fallait aussi qu'il y ait la validation par la préfecture.
Wow, ouais.
Et là, cette validation, donc qui était des garde-fous, là, cette validation a été annulée et transférée au directeur général de Pôle emploi et au directeur régional de Pôle emploi. Donc on voit bien, en plus, depuis les années 90, comment on a faciliter les procédures de radiation. Et comme on a inversé du principe de, d'innocence concédée aux demandeurs d'emploi et la nécessité pour la NPE ou l'administration publique de prouver les raisons de du licenciement de la radiation, on a inversé cette logique où là, la facilité déconcertante avec laquelle on peut entraîner une radiation est validée par le transfert de compétences et l'automatisation de ces logiques de radiation.
D'accord. D'accord, mais on se rend compte même que c'est une logique de toute manière qui appartient à peu près à tous les secteurs. Hein. Je veux dire, il y a vraiment un renversement là où on était présumé innocent. Maintenant, on est forcément coupable. Il faut se justifier. C'est vraiment un renversement par rapport aux valeurs qui étaient jusqu'alors à les nôtres.
Et donc, la deuxième possibilité pour pouvoir radier un demandeur d'emploi, ce sont les fameux services dédiés au contrôle de la recherche d'emploi, qui ont été créés donc, il y a quelques années et qui ont, en 2018, été multipliés par 5. Donc, de 200 conseillers, on est passé à la décision d'avoir des 1000 contrôleurs. Donc, ces effectifs ne sont pas des effectifs embauchés, mais des effectifs transférés du conseil vers le contrôle. Donc là aussi, on voit la volonté manifeste du gouvernement de transférer les missions du service public de l'emploi du conseil vers le contrôle.
Et juste quand même, je tiens à le préciser que c'est à nouveau quelque chose qui se généralise. RATP, SNCF, exactement la même chose. C'est on n'a plus ces informations, ces aides, ces conseils, ces lieux où on peut se rendre. Mais de plus en plus, on ferme ces lieux et l'accueil, comme tu le dis, est transféré vers le contrôle et la sanction.
Et alors dans ces effectifs dédiés au contrôle, trois critères sont retenus pour envisager opérer un contrôle. Un critère sur une analyse aléatoire, c'est-à-dire que un algorithme va vous trouver au pif des dossiers à contrôler. Hein. Mmh. Il y a la possibilité sur indication des personnels, donc un conseiller qui
nous suspecte, ouais.
Et sur des critères bien précis, comme par exemple les demandeurs d'emploi de longue durée. Alors, petite précision quand même sur ces services dédiés au contrôle. La plupart de ces services, pour l'instant, étaient alimentés par des conseillers qui avaient du métier. Donc des conseillers qui avaient à cœur une éthique professionnelle, une déontologie. Et on pouvait constater, même si, bien entendu, pour le SNU, on était fondamentalement contre ce type de dévoiement des missions du service public, on pouvait constater que dans ces services, les collègues qui opéraient les contrôles étaient avant tout dans une logique d'accompagnement. Hein. Ce qui peut expliquer d'ailleurs les chiffres très très bas des radiations et des radiations qui concernent souvent des demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, suffisamment découragés pour dire de toute façon, moi je ne touche pas d'allocation, donc faites bien ce que vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que la réorganisation du travail à Pôle emploi a provoqué la mise en place de plateformes, et entre autres des plateformes téléphoniques, où là les conditions de travail sont d'une violence inimaginable auparavant à Pôle emploi, avec des exigences en termes d'appels reçus, des exigences en termes de temps passé au téléphone, des exigences par rapport à des pauses extrêmement contraintes. Donc là, on est arrivé à une vraie violence sur les lieux de travail. Et le projet de la direction de Pôle emploi est de transférer ces personnels, donc qui ont subi des logiques extrêmement coercitives et brutales, vers les plateformes de contrôle pour leur faire appliquer ce qu'ils ont été obligés d'intégrer sur les plateformes téléphoniques vers les plateformes de contrôle. Donc là, on peut s'attendre à une course aux chiffres de radiation par rapport à, au développement de ces plateformes. C'est important à avoir en tête.
Ouais, carrément. Et il y a aussi quand même, vite fait quand même, les fausses déclarations, parce que bon, c'est quand même pas énorme. Et souvent, ça amène des radiations, etc. Et on se rend compte des fois que les fausses déclarations, c'est une broutille, pareil. Et ça engage après la suppression des allocations. Ça, c'était pour le troisième groupe, puisque ça va quand même, les radiations prolongations, elles vont de 6 à 12 mois, hein, quand même, jusqu'à avoir définitivement la suppression des droits, alors que voilà, ça peut des fois être des conneries.
Et effectivement, le texte précédent ne précisait pas aussi clairement les sanctions à mettre en place. Mmh. Le texte évoquait la nécessité de prendre des sanctions si il y avait des fausses déclarations. Là, il y a vraiment la volonté de systématiser potentiellement des sanctions à l'égard, très régulièrement, de ce qui est des maladresses ou une incapacité à pouvoir rendre compte d'une activité réduite, des maladresses administratives. Là, il y a bien la volonté de systématiser ces sanctions.
Alors là, en plus, on se rend compte que c'est les travailleurs, enfin les gens qui travaillent à Pôle emploi, les contrôleurs, hein, les contrôleurs de Pôle emploi, qui vont avoir un pouvoir absolument incroyable entre leurs mains, puisqu'ils auront la possibilité eux-mêmes, sans qu'on puisse tellement réagir, de nous radier ou pas. C'est ça, en fait.
Oui. Bah, de toute façon, là, alors, entre les mains des conseillers, disons que Pôle emploi perd de plus en plus ses missions d'accompagnement, ses missions de service public au service du public, pour être de plus en plus un bras armé du gouvernement à l'égard des travailleurs privés d'emploi. Mais pour le coup, précisément, ce décret, donc, il s'intègre dans toute une série de réformes, hein, qui donc avait, on le disait au début, la loi du 5 septembre sur la liberté de choisir son avenir professionnel comme pivot. Mais c'est très intéressant aussi de voir ce qui est écrit dans Cap 22 sur Pôle emploi. Et donc dans Cap 22, la proposition 10 parle bien de la nécessité pour Pôle emploi de se recentrer sur ses missions régaliennes. Et les missions régaliennes, à la base, qu'est-ce qu'on appelle les missions régaliennes de l'État ? C'est la police, l'armée et la diplomatie.
Les prisons aussi.
Donc, si on parle pour Pôle emploi de se recentrer sur ses missions régaliennes, c'est-à-dire qu'on parle de se recentrer sur le contrôle. Mais de toute façon, c'est totalement cohérent dans la politique libérale mise en œuvre depuis maintenant pas mal de temps. Alors Macron, rupture ou continuité? Non, Macron, continuité, mais avec un passage de vitesse rouleau compresseur. Donc, là, l'objectif pour le gouvernement, c'est de lever les freins à l'embauche. Et lever les freins à l'embauche, ça passe par détruire le droit du travail, mais ça passe par détruire l'assurance chômage, puisque une assurance chômage ne pousse pas les travailleurs à se soumettre au patronat au point de prendre n'importe quel emploi à n'importe quel prix. Et le but de toutes ces lois et le but de ce décret, c'est de faire en sorte que maintenant, le travailleur se subordonne aux critères qu'on lui fixera.
Tout à fait, parce qu'il y a cette histoire d'obligation, hein, de prendre en fait le boulot. Avant, c'était quand même bon, même si au fur et à mesure des années, comme tu viens de le dire, tout ça commençait un petit peu à se déliter. Et là, plus ça va, plus on se rend compte qu'on va devoir, en tant que chômeur, accepter n'importe quel type de taf à n'importe quel prix. Alors que là, pour l'instant, c'était quand même un tout petit peu encadré.
Alors, il y a l'offre raisonnable d'emploi.
Voilà, c'est ça, celle-là.
La fameuse offre raisonnable
d'emploi. Alors, je voulais juste te dire, parce que c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que chercher quelque chose qui n'existe pas ou presque plus, c'est juste... Ça peut rendre un petit peu fou. Et là, l'État nous rend responsable du fait qu'il n'y a pas de boulot. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit eux, c'est quand même à Pôle emploi, de proposer aux chômeurs du boulot, ce sera à nous de chercher du boulot qui n'existe pas et d'être sanctionné si on n'en trouve pas. Ce qui est quand même... là, on est quand même dans un système complètement dingue, quoi.
Comme par rapport à l'évolution de la radiation, les années 90 sont assez pivots aussi par rapport à ça, on s'est rendu compte que pour les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux et le gouvernement, plus le chômage de masse se massifiait et plus on estimait le chômeur responsable de sa situation. Ce qui est complètement contradictoire. Enfin, ça dépend d'où on se place, encore une fois. Le système libéral, lui, part du principe que de toute façon il n'y a pas d'alternative possible, et donc il faut de toute façon que le travailleur accepte les conditions qu'on lui fasse. Et il ne sort pas de cette doxa-là. Donc, bien entendu, ça peut paraître incohérent, mais quelque part, pour le système libéral, il n'y a pas d'autre solution que de rendre le chômeur responsable de son chômage. Parce que précisément, Ces milliers d'offres d'emplois non pourvus dont on parle en permanence sont des offres absolument consternantes, d'une précarité délirante, parfois d'une heure, mais souvent de toute façon des contrats précaires, très mal payés, avec une énorme pénibilité. Bah bon. Par contre, c'est bien là-dessus que on cherche à égaliser les offres d'emploi en général, voire même faire pression sur les salaires. Hein, l'objectif d'un pôle emploi rêvé par Emmanuel Macron et le patronat, c'est de faire en sorte que tout le monde soit soumis à accepter des offres d'emploi de moins en moins bien payées, et donc de faire pression sur les salaires en général dans le pays.
Et oui, ça me fait penser à sa petite phrase là pour quelqu'un qui aurait eu une formation, je dis n'importe quoi, de boulanger, qui se retrouve petit commerçant ou vendeur. Vraiment, l'idée c'est prenez ce qu'il y a, quoi. Peu importe votre formation, vos salaires précédents, etc. Si vous avez envie de travailler, eh ben prenez ce qu'on vous donne et taisez-vous, quoi.
Oui.
C'est d'ailleurs c'est sa petite phrase là dernièrement, les troubles que nos sociétés traversent sont parfois dus au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir quelque chose sans que cet effort soit apporté. On nous demande une fois de plus de faire des efforts, et si on veut travailler, il paraît que du travail il y en a, mais il faut voir la tête qu'il a, c'est ce que tu disais.
Mais c'est effectivement deux projets de société qui se font face pour le gouvernement libéral, fille du parcours, fille du diplôme, sachez accepter ce qu'on vous propose et rien d'autre. Donc oui, c'est une manière de penser bien particulière qui n'est pas forcément la nôtre. Et si on en arrive à cette offre raisonnable d'emploi, donc à la base, l'offre raisonnable d'emploi donc avait été intégrée dans la loi en 2008, si je me souviens bien, et elle avait été très peu mise en place, de fait qu'elle était difficilement applicable,
quantifiable aussi.
Applicable, et qu'il y avait une résistance des conseillers Pôle emploi qui estimaient cette loi beaucoup trop brutale, là aussi, cette logique de... Mais ça devait être la possibilité pour un demandeur d'emploi d'accepter une offre du même métier.
C'est ça, oui.
Du même métier et avec le même salaire.
Carrément.
Avec le même salaire. Et là, ce qui est très intéressant avec le retour de l'offre raisonnable d'emploi, c'est que, d'une part, le texte supprime la prise en compte du salaire perçu antérieurement. Donc, ça signifie que, maintenant, plus aucun demandeur d'emploi ne pourra refuser un emploi moins bien rémunéré. Deuxième chose, Pôle emploi est en train de vivre... la réorganisation du travail et des consignes sont absolument permanentes. Hein, c'est le principe de la fluidité du capitalisme et de sa violence. Et donc, on est passé à un stade de l'offre par compétence. L'offre par compétence, l'approche par compétence, excusez-moi. L'approche par compétence, c'est quoi ? C'est que maintenant, rechercher un emploi sur le même métier, c'est has-been, c'est dépassé.
Ouais.
On va plutôt voir les compétences que vous avez, hein, et on va vous trouver un job en fonction de ces compétences. Et alors, c'est absolument formidable, parce que si on remet en cause le salaire et si on remet en cause le métier pour trouver que les compétences, mais alors dans ces cas-là, toutes les offres d'emploi vont devenir des offres raisonnables d'emploi.
Carrément.
Et alors, troisième point sur l'offre raisonnable d'emploi, c'est que maintenant, on commence à développer des outils informatiques et des algorithmes, ces fameux algorithmes, hein, ce mot passe-partout, qui vient légitimer en fait des critères politiques souvent inacceptables. Et donc, ces outils informatiques composés d'algorithmes vont pouvoir vous trouver en quelques fractions de secondes toutes les offres raisonnables d'emploi qui correspondent à votre absence de salaire et à votre absence de métier, mais uniquement à vos compétences. Donc là, dans peu de temps, cette loi, précisément, va pouvoir justifier la suppression de vos allocations parce que vous aurez refusé une offre d'emploi qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous recherchez. Donc là, tout est en place pour un approfondissement rigoureux du cauchemar qu'on est en train de vivre à Pôle emploi et dans le pays.
Carrément, tout à fait. Et ce cauchemar dont il faut absolument se battre contre, ce cauchemar ne fait que commencer. puisque quand même, là, il y a aussi bon, là, des discussions qui sont en œuvre sur la question de l'assurance chômage et qui nous prédisent quand même un avenir loin d'être radieux si on le laisse faire.
Alors, effectivement, l'ensemble de ces réformes qu'on évoque progressivement, il faut aussi y ajouter donc, la négociation assurance chômage qui a commencé dernier trimestre 2018 et qui devrait se continuer jusqu'en février 2019. Négociation assurance chômage qui fait elle-même suite à l'accord annuel interprofessionnel, l'accord national interprofessionnel, pardon, l'ANI, qui avait été signé en février 2018 entre les partenaires sociaux, qui abordait les cinq grands thèmes hein, de l'ANI, qui était censé reprendre dans la négociation assurance chômage, qui était donc l'ouverture de l'indemnisation aux démissionnaires, l'indemnisation des travailleurs indépendants, le recours aux contrats précaires, le contrôle des chômeurs et la gouvernance de l'assurance chômage. Donc ça, c'était des thèmes. L'ANI est arrivé à un texte assez creux, au final, mais qui était censé préfigurer ce qui devait se passer pour la négociation assurance chômage. Entre-temps, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel précisait que la gouvernance de l'assurance chômage était modifiée, puisque l'UNEDIC avait un cadrage financier de l'État. D'ailleurs, l'État, précisément, a annoncé au début de la négociation assurance chômage que si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à un accord signé, ils reprendraient la main.
Alors, est-ce qu'on peut quand même s'arrêter deux secondes là-dessus ? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne savent même pas comment l'UNEDIC, à la base, elle est financée.
Ah oui. Alors, l'UNEDIC est principalement financée par les... était principalement financée par les cotisations chômage. Les cotisations employeurs et les cotisations salariés, qui a aboutissé à un montant global, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais environ 35 milliards. Mmh. Hein, avec, et donc, la principale dépense, c'était les allocations chômage. Mmh. Et donc, depuis quelques années, on est à l'équilibre, 35 milliards, 35 milliards.
Alors, l'arrivée quand même de l'État dans cette histoire-là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Puisque pour l'instant, elle n'y mettait pas son nez, elle n'y mettait pas... Donc, qu'est-ce que ça va amener ? C'est quoi la différence ?
Alors...
ça va, ouais. Bon, ça vous avez deux
avait,
secondes
encore
pour...
encore beaucoup de choses à dire. C'est vrai que ça allait très vite.
Bon, on va se revoir, c'est pas grave.
Avec plaisir, avec plaisir. C'est vrai que l'assurance chômage, donc l'UNEDIC, est issu des conquêtes sociales d'après-guerre et donc s'est construit indépendamment de l'État. C'était l'objectif des organisations syndicales, se construire indépendamment de l'État pour opérer une démocratie sociale. Le fait que l'État intègre les négociations via une lettre de cadrage, c'est le rappel que l'État veut en finir avec les conquêtes sociales de l'après-guerre et donc veut étatiser ces structures-là. La sécurité sociale aussi est une conquête d'après-guerre, et la sécurité sociale est gérée indépendamment de l'État, par les partenaires sociaux. Donc là, l'État, déjà à l'époque de l'ANI, avait dit aux partenaires sociaux, soit vous trouvez une solution pour, avec le même budget, financer aussi les indépendants et les démissionnaires, se dire « faites l'impossible hein. ». Mm-hmm. Soit vous trouvez une solution, soit c'est moi qui reprendrai la main, je trouverai la solution, j'étatiserai l'assurance chômage, mais là, ça risque de faire très mal. Hein. Donc, grosso modo, le message depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est « flinguer l'assurance chômage vous-même » ou « c'est nous qui nous en occuperons hein. ». Globalement, on en est là. Et d'ailleurs, précisément, ce qui est intéressant, c'est que la lettre de cadrage du gouvernement, c'est de permettre donc l'indemnisation des démissionnaires et des indépendants, mais en faisant une économie de 4 milliards sur 3 ans, hein, de 4 milliards d'euros sur 3 ans. Donc, il y a quand même des logiques assez contraignantes sur tout ça, puisque si vous augmentez... C'est très très beau cette histoire d'indemniser les indépendants et les démissionnaires, mais si vous indemnisez plus de monde avec moins d'argent, ça fera moins d'argent pour tout le monde. Il faut être lucide. Donc ça, c'est une manière d'empêcher l'assurance chômage de fonctionner.
Sans compter qu'il y a des tas de gens qui ne payent pas leurs charges hein, et que l'État n'est pas très empressé à leur demander les thunes. Hein. On pense à des grandes entreprises notamment.
Oui, tout à fait.
Non, non, parce que ça nous manque dans la caisse quand même. Il faut le dire.
Les fraudeurs ne sont pas considérés tous de la même manière.
Oui, exactement.
Tout à fait. Alors, bon, bien entendu, le gouvernement soutient plus ou moins les revendications du patronat, qui là sont assez graves aussi au niveau de la négociation assurance chômage. Le MEDEF propose de revoir les conditions d'accès à l'indemnisation pour les rendre plus complexes, propose de réduire les indemnités, hein, propose, ça c'est très intéressant en termes de services publics, propose de moduler la durée des allocations en fonction de la qualité du marché du travail régional. Donc si vous avez un marché régional dynamique, hein, eh bien vos allocations dureront moins longtemps.
Dans le Nord, par contre, ils vont être tranquilles. Hein. Non, mais je plaisante.
Et donc, effectivement, tout ça s'inscrit dans des logiques assez dangereuses. Pour
ça s'inscrit, on voit bien le but de l'histoire, hein, c'est de donner de moins en moins, de payer de moins en moins, de rendre responsables les chômeurs de leur inactivité, du manque d'emploi, et petit à petit, de donner de moins en moins, de moins en moins d'argent, quoi. Donc, et de laisser les gens se démerder avec que dalle, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir comment ces conquis qui ont été obtenus de grandes luttes, hein, comment ça s'est filoché. Et là, comme tu le disais, c'est quelque chose qui s'effiloche depuis des dizaines d'années. Mais là, il y a vraiment un coup une accélération incroyable. Et finalement, moi, je trouve que les syndicats ne sont pas à la hauteur de la violence de ces transformations là qui vont s'opérer à la fois sur la question des retraites, de l'assurance chômage, de toutes ces choses finalement qui nous étaient indispensables, qui nous sont indispensables pour pas sombrer dans une misère noire.
Alors là, on change de sujet. Je sais pas si je peux.
Ouais, il nous reste plus que 5 minutes. Donc, oui, mais ceci dit, on peut.
Mais sur les syndicats, c'est un grand débat.
Ouais.
Est-ce que les syndicats sont pas à la hauteur? J'aurais tendance à dire, en tout cas pour les syndicats de lutte, hein, puisque pour le SNU, on est dans l'arc syndicalisme de lutte et de transformation sociale avec la CGT et Solidaire. Les syndicats, est-ce qu'ils ne sont pas à la hauteur? Peut-être que la mobilisation n'est pas à la hauteur. Et je pense que les syndicats et les salariés organisés doivent faire face à des stratégies de réorganisation du travail et des stratégies de réorganisation de l'économie mises en place par le gouvernement, le capitalisme et le patronat qui mettent en échec les possibilités de mobilisation. Et c'est vrai que, pour l'instant, les syndicats n'ont pas encore trouvé les moyens de contre-attaquer à ces logiques. Alors, bien entendu, dans la période que nous traversons avec les Gilets jaunes, ce grand mouvement populaire, là, il s'agirait pour les organisations syndicales de pouvoir articuler les forces pour pouvoir bloquer réellement le pays. Là, je pense que la prochaine étape, si nous avons des directions confédérales et fédérales responsables, c'est de pouvoir permettre cette articulation. Pour notre part, au SNU Pôle emploi FSU, nous avons communiqué sur le soutien que nous apportons au mouvement des Gilets jaunes, dans les revendications en tout cas que nous partageons.
Parce qu'il y a aussi tout simplement cette question de l'information. Je suis persuadée qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout au courant de la transformation de la radicale qui va s'opérer suite à ces nouvelles lois, quoi. Donc il y a vraiment aussi même une question d'info. Je pense que les gens vont se retrouver tout seuls face à ou leur fiche de paye ou leur carton d'indemnisation à se dire mais voilà, je peux plus vivre. Comment je fais, quoi.
Et effectivement, alors nous travaillons énormément avec les organisations de chômeurs, MNCP, AC, APACE, CGT Chômeurs et CIP. Et c'est vrai que, et donc avec d'autres aussi organisations syndicales de Pôle emploi, CGT et Solidaire. Et c'est vrai que nous rencontrons depuis de nombreuses années la possibilité de mobiliser autour de la question de l'assurance chômage, puisque précisément, lorsqu'on est salarié, on peut s'organiser. avec derrière toute la réorganisation du travail qui s'opère depuis les années 70, qui précarise, individualise, atomise énormément, et qui fait qu'on en est arrivé là aussi, en termes de rapport de force.
Tout à fait.
Mais il y a une cohérence d'organisation au sein du travail qui se perd très rapidement, hélas, une fois chômeur. C'est-à-dire que le chômeur est vu comme une période, le chômage est vu comme une période transitoire. Et les moyens de s'organiser entre chômeurs, déjà, ne sont pas considérés comme un objectif principal quand un travailleur se retrouve au chômage, hein, et sont difficiles du fait même de l'organisation du chômage qui isole les individus. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à travailler. Et avec le collectif unitaire, il nous faut avoir le collectif unitaire, donc des organisations syndicales de Pôle emploi et des organisations de chômeurs, il nous faut avoir comme objectif maintenant de pouvoir communiquer efficacement auprès des gilets jaunes. Là, on communique depuis longtemps auprès de la population, on organise régulièrement des actions. Mais là, maintenant, il faut pouvoir intégrer les débats des gilets jaunes qui se structurent de plus en plus, hein, ce qui est une chance pour le mouvement, et de pouvoir diffuser donc, l'importance des débats liés à l'assurance chômage, la violence des attaques qui lui sont faites, et la priorité au sein des questions sociales qu'ils doivent avoir.
Quelles sont les questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui et qui te paraissent importantes? Parce que comme ça, du coup, on pourra se revoir.
Oh bah là, on a réussi, je pense, à balayer toutes
À peu près. Après, on n'est peut-être pas rentré dans les détails.
Les points les plus importants, on n'est pas rentré dans les détails. Et,
De toute manière, on se reverra puisque là, au mois de février, les choses devraient continuer à se discuter, voire à se décider. Et donc, du coup, peut-être on pourra refaire un point sur ce qui s'est décidé, quand ce sera décidé, s'il n'y a pas d'ici là des mobilisations qui freinent ou empêchent cette avancée terrible contre le mur. Voilà.
Avec plaisir.
Merci beaucoup en tous les cas, François, d'être venu pour nous expliquer tout ça, nous raconter tout ça, parce que c'est important de savoir pour pouvoir combattre. Merci beaucoup.
Estime Patrick, Italia va. Era prima che si navaghiri in tra città chi non era soppi travagliari piangeva su cori spiaro A chi un po' marore c'è pura e putrisio una scitù non mo riquattro Italia o mari, cielo e stiri stavano a brillare, io picci rido ci lasciava un cuore, entrate raccani na na.
Patrick et Alia vous marie. Ora che non c'è più i ciururi sartiri, tu resta ca tu noi upisha travagliari. Visti me patri salutarum marri. A chi pomarore ci puda e pudri signo, conosci tu non muovo. Se tu non muovo, riquadra.
Je crois que maintenant on va passer à autre chose. On va passer à une lutte dans la Poste, dans le 92, en région parisienne, donc qui dure depuis 316 jours exactement. Je crois que dans nos émissions, on en a déjà parlé.
Oui, oui, c'est ça. Donc l'interview a été réalisée il y a une dizaine de jours, donc on parle de 66 jours dans le morceau qu'on va vous passer. Donc, mais donc ça fait effectivement 316 jours. Et il y a plus de 200 facteurs et factrices qui sont toujours en grève. Voilà. Allez, on y va.
Eh bien, là, nous avons Brahim au téléphone. Alors, je rappelle, hein, Brahim, c'est l'un des postiers du 92 qui sont en grève depuis plus de 300 jours dans la Poste et qui, aujourd'hui, même ce matin, était en occupation. Il faisait une action. Ils ont occupé le siège de la Poste. Salut Brahim.
Salut Nadia, salut tout le monde.
Voilà, donc bonjour. Peut-être tout simplement nous dire déjà pourquoi vous avez occupé le siège de la Poste ce matin.
Bah écoute, on a occupé donc c'est le siège de la Banque Postale,
ouais.
qui est l'une des filiales de la Poste, qui est la filiale la plus importante, on va dire, en termes de thunes. On a décidé de l'occuper parce que ça fait une quinzaine de jours qu'on a décidé d'avoir comme stratégie de les harceler, en fait, de les harceler constamment tous les matins pour leur faire payer le fait qu'ils refusent d'ouvrir de réelles négociations. Donc depuis 15 jours, on a fait la tournée des sièges, on a fait le siège de Colipost, on a fait le siège de la direction du numérique, on a fait le siège du courrier, on a fait le siège national du groupe. Et là, donc ce matin, on était au siège de la Banque Postale et on a occupé la salle du conseil, qui est une immense salle insonorisée, genre pour faire leur grande réunion, leur réunion à la con, on va dire. Et donc on l'a occupée pendant toute la matinée.
D'accord. Donc est-ce qu'on peut... Alors bon, du coup, parce qu'en fait, voilà, ça faisait 300 jours que vous étiez en grève et vous n'aviez pas pu commencer l'ombre d'un début de négociation. Et là, ces derniers jours, il y a eu une tentative de négociation. Comment ça s'est passé ?
Eh bien écoute, c'est exactement ça en fait. Ça fait, on est au 306e jour aujourd'hui de grève. Et jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait absolument pas le moindre pas qui était fait par la direction de la Poste pour mettre fin à ce conflit. On a décidé justement cette politique d'harcèlement quotidiennement tous les matins d'aller envahir et occuper les sièges. Et ça a plutôt payé puisqu'on a été reçu lundi, donc en début de semaine, pour discuter de la méthodologie selon laquelle les négociations devaient s'ouvrir et se poursuivre. Mm-hmm. Et on a été reçu mercredi une deuxième fois pour discuter de la revendication principale qui serait en réalité la colonne vertébrale d'un futur protocole de fin de conflit.
Mmh.
On est ressorti de cette audience, donc c'est quand même un premier pas qui est fait puisqu'ils acceptent d'ouvrir des négociations et de discuter sur la base de leurs revendications.
Allô ?
Je suis désolé, on est passé sous un tunnel, j'étais en voiture.
Ah d'accord, vas-y.
Juste pour dire rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des négociations. Donc en fait, on a été reçu mercredi dernier et ça a été un énorme foutage de gueule, puisque pour résumer la situation très brièvement, on est en grève depuis 10 mois et ce qu'ils proposent pour sortir du conflit, c'est de reporter les restructurations de 2, des 5 bureaux qui sont en grève majoritaire, mais de les repousser sur une période allant de 1 à 3 mois. Donc, super. En gros, on a fait grève 10 mois pour obtenir un report de restructuration de 1 à 3 mois. Donc, c'est une énorme provocation de leur part. Et on leur a fait payer très cher puisque, dès le lendemain, c'est-à-dire hier, on a décidé d'aller faire une action coup de poing au niveau du siège du groupe. Parce que ils ont une stratégie un peu bizarre, c'est que il suffit qu'on se pointe devant le siège et ils ferment complètement le bâtiment. Et du coup, on a des centaines de cadres qui restent dehors, qui s'amoncellent sur le trottoir et qui sont dans la capacité de rentrer et de sortir simplement par notre présence parce qu'ils ont peur qu'on rentre à l'intérieur. Donc on a fait ça hier et ils se sont retrouvés avec 500 personnes coincées à l'extérieur avec une conférence qui devait se tenir qui ne s'est pas tenue et on a tenu comme ça toute la matinée. Et ce matin, on a décidé de faire le siège de la Banque Postale. Donc, on a répondu du tac au tac. Et ce matin, puisqu'on était en mode occupation, on a eu la garantie que non seulement l'audience de lundi, on discuterait de la question des restructurations, puisque selon eux, la discussion de lundi était simplement sur un autre aspect du protocole et pas sur l'aspect fondamental qui concerne les suppressions d'emplois. Donc, on a la garantie de discuter sur cette question-là. On a la garantie qu'ils feront des propositions intermédiaires. Et on a également la garantie de se voir le lendemain, c'est-à-dire mardi, dans la foulée, et non pas d'attendre vendredi, puisqu'ils nous proposaient une autre audience vendredi. Donc en gros, ils ont satisfait les trois exigences qui étaient les nôtres, et donc on a décidé de laisser la chance à la négociation et de voir ce que ça donnait lundi, avec évidemment, comme ligne de mire, comme canevas, on va dire, le fait que, de toute façon, on ne reste pas soumis aux éventuelles propositions ou pas qu'ils sont capables de faire, mais de pouvoir réagir si jamais ces propositions ne sont pas satisfaisantes. Donc on est dans une situation où il y a quand même un changement de ton. Faut le dire, il y a un changement de ton de leur part parce qu'ils voient bien qu'on est déterminé et que ce conflit, il faut bien qu'il y ait à un moment donné, il se termine. Mais c'est pas gagné non plus. On est loin d'avoir signé un protocole et c'est pour ça qu'on a encore besoin du soutien de tout le monde.
D'accord, ok. Eh ben, écoute, super. Il était temps, on va dire. Est-ce que vous appelez, vous serez à la manifestation demain des Gilets jaunes ?
Absolument. Comme depuis 5-6 manifs, on sera à la manif samedi matin des Gilets jaunes. Et donc on appelle évidemment tout le monde à y aller, à nous rejoindre. Et deux éléments très très importants sur comment est-ce que le monde extérieur peut nous aider. Premier élément, lundi 17h30 au siège du groupe La Poste à Issy-les-Moulineaux, 9 rue du Colonel Pierre Avia, on organise un rassemblement pour la venue de Bruno Le Maire. Il y a le ministre de l'économie qui vient au siège de La Poste parce que pour présenter ses vœux de bonne année avec le PDG du groupe Philippe Val. C'est un événement qui avait déjà été organisé il y a 15 jours, ouais. Qu'ils avaient annulé suite au rassemblement qu'on avait préparé et organisé, et ils l'ont repoussé au 28. Sauf que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginaient. Ils s'imaginaient peut-être que le 28, en fait, on dormirait à la maison, mais en fait, non. Le 28, on appelle toutes celles et tous ceux qui veulent nous soutenir, mais qui sont aussi en colère vis-à-vis du gouvernement, parce que il y a quand même l'un de ses plus hauts représentants qui sera présent, à venir nous rejoindre et à leur souhaiter nos vœux de bonne année.
De démission,
manière.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est le premier truc très très important où on aurait besoin de soutien. Et le deuxième élément qui reste fondamental, c'est la caisse de grève. On est à 10 mois de grève, ça fait 10 mois sans salaire, on est 140 grévistes. Donc évidemment, les situations financières sont très très compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a besoin qu'on continue à mettre dans la caisse de grève parce que c'est le seul moyen de tenir et c'est surtout le seul levier qu'il reste à La Poste pour nous faire craquer, c'est la question de la thune. Donc on a besoin d'aide.
Comment on fait alors pour vous donner des sous ?
Il y a plein de moyens. Il y a la possibilité d'envoyer des chèques à notre local syndical, donc c'est Sud-Poste 92 51 rue Jean Bonnal, 92-250 La Garenne-Colombe pour envoyer des chèques. Et sinon, il y a la possibilité de faire des dons en ligne, puisqu'on a une caisse en ligne. Ça a été un peu l'un des sujets d'actualité ces dernières semaines, les caisses en ligne, les pots communs, les litchis. Et ben en fait, on en a une depuis le début de la grève. Alors, évidemment, elle n'a pas eu le succès de la caisse en ligne de Christophe Détinger, alors que pourtant, elle est tout à fait légitime à récolter beaucoup d'argent. Et donc, il y a la possibilité de faire des dons en ligne. Il y a le lien du pot commun sur notre Facebook, Sud-Poste Haute-Seine, sud poste attaché, plus loin Haute-Seine, avec le lien de la caisse de grève pour pouvoir faire des virements. Et on a dernière chose, la possibilité, une autre possibilité de nous aider. On a conçu un calendrier 2019 de lutte avec des photos de un peu représentatives de notre grève et dédicacées par des personnalités et en particulier Ken Loach. Il y a la possibilité d'acheter ce calendrier pour qui est au prix de 10 € pour alimenter cette caisse de grève.
Super. Bon bah bon courage et puis à demain, Brahim. Merci beaucoup.
Bon, ben, je crois que je ne sais pas si tu as des nouvelles par rapport à ces grèves de la Poste, parce qu'on parle du 28 septembre, là, on est quand même 28 janvier, on est quand même début février, il n'y a qu'une semaine. Bon, alors, pour terminer, je vais vous annoncer tout de même que le numéro 287 de Courant Alternatif de février vient de sortir. Vous pouvez l'avoir sans problème auprès de nous, c'est-à-dire en nous passant un mail ou... Allez, Grégor, boîte postale 81 213 51 058 Reims CEDEX. Alors, le titre est très clair. Changer de gérant ne sert à rien. C'est le système capitaliste qu'il faut abattre. Voilà, c'est notre première page de ce mois-ci. Maintenant, je voulais pas terminer cette émission sans vous parler d'une lutte importante qui a lieu aujourd'hui dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire des CRA, un fameux CRA, c'est-à-dire ça concerne bien évidemment les sans-papiers. Comme vous le savez, depuis le début janvier, eh bien la durée de rétention est passée de 45 jours à 90 jours effective. C'est rentré en vigueur donc depuis le 1er janvier et ça a eu pour conséquence évidemment d'engorger complètement les CRA où il y a une situation lamentable qui est faite au niveau de l'accueil de cette rétention. C'était déjà pas triste avant. Là, ça l'est encore plus. Et puis, là, ce qui est important de savoir, c'est que il y a eu des résistances. En particulier, il y a eu des grèves de la faim. Il y a eu des manifestations à l'extérieur et à l'intérieur d'un certain nombre de CRA, dont le Ménilamno, dont aussi Oissel, à Rouen.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir. C'était donc les Grégor chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Chat Noir 51 et le site aussi des